Bien, la conférence instruction de ce soir, le titre, La fraternité Saint-Pédis, œuvre d'église. Je le savais bien, qu'on nous parle du bon Dieu, de la Sainte Vierge, des anges, des saints, pas de problème, on est venu pour ça. Mais alors, maintenant, l'endoctrinement, je suis pas venu pour ça. Non, n'est-ce pas quelques-unes de vos réflexions, peut-être? Voilà, maintenant, on passe à l'endoctrinement. Maintenant qu'on est bien sage, confessé, tout au bon Dieu, allez, maintenant, on y va, c'est le marteau, le burin. Bon, évidemment, c'est pas ça. Non, quel est le but? Le but, tout simplement, c'est de montrer que la fraternité, comme le titre l'indique, est bien une œuvre d'Église, que nous sommes ni hérétiques, ni schismatiques, donc ni excommuniés. Parce qu'effectivement, la fraternité ne laisse pas indifférent. Hein, je pense dans vos dîners mondains, quand vous commencez à mettre le sujet sur le tapis, waouh, ça bouge. C'est comme en politique, il y a certaines choses qu'il ne faut pas parler, autrement ça bouge aussi. Comme au début du XXe siècle, l'affaire Dreyfus. C'était vraiment le sujet à ne pas aborder, quoi. Selon les petits dessins, ils en ont parlé, on voyait les gens se taper dessus, enfin bref. Ben là, un peu, c'est la même chose. Si vous commencez à parler de Monseigneur Lefebvre, Fraternité Saint-Pédis, alors là, vous mettez de l'ambiance dans le repas, c'est sûr. Bref. Donc, si vous êtes lié à la Fraternité Saint-Pédis, si vous êtes tombé dedans depuis que vous êtes petit, donc, il est toujours utile de bien connaître l'origine de la fraternité et puis d'avoir un peu des arguments, savoir se défendre, quoi. Pourquoi j'adhère, pourquoi je suis les prêtres de la fraternité. Donc il ne faut pas que ce soit, on suit quelque chose de manière aveugle, on ne sait pas pourquoi, non, parce que les prêtres sont sympas. Non, ce n'est pas le but. Non, il faut avoir quand même d'autres arguments. Et puis, si par contre vous ne connaissez pas du tout, peut-être parmi vous, certaines c'est le cas, ou que vous n'en avez des connaissances que journalistiques, que ce soit civile ou religieuse, dans ce cas-là, évidemment, vous ne devez pas nous connaître sous un angle très favorable. Alors, dans ce cas-là, il est bon aussi, je crois, de connaître les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se sont passées objectivement. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire pendant ces quelques minutes. Alors, pour ça, j'allais dire, depuis pas tout à fait un an, depuis quelques... Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça doit faire 9 mois, 10 mois, 9 mois. J'ai dit, à la limite, on a presque pu se passer de cette conférence et vous mettre toutes à lire ce livre. C'est le livre de base, Monseigneur Marcel Lefebvre, Une vie, par Monseigneur Tissier de Malraye. Donc, cette vie qui est sortie il y a, au mois d'octobre, je crois, septembre, peut-être même septembre. Septembre 2002. J'ai dit, Tout est résumé, donc c'est vraiment vite très bien fait, pas moins que vous l'ayez déjà toutes lues, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à lire. Bon, évidemment, il y a 700 pages, donc ça fait peut-être un peu peur, mais ça se lit quasiment comme un roman, parce que Monseigneur Tissier écrit très bien, puis c'est passionnant, parce que c'est toute une page de l'histoire de l'Église du XXe siècle. Donc, pour l'instant, comme nous en faisons partie, disons, on en a fait partie, oui, parce que je pense que Monseigneur est mort il y a 10 ans. Non, attendez, on est quand, en 2002. Oui, 12 ans, bientôt 12 ans, 12 ans. Bon, je pense que vous êtes toutes plus de 12 ans quand même. Donc, vous avez au moins entendu parler de Monseigneur. Voilà, donc c'est vraiment le document de base pour connaître l'historique. Donc, si vous voulez, je vais un petit peu évidemment résumer. Je vous rassure, je résume un petit peu, puis d'autres documents. Alors, pour comprendre l'histoire de la fraternité Saint-Pédis, il faut aller un petit peu plus en arrière, c'est le problème du Concile Vatican II. Ce concile qui s'est déroulé de 1962 à 1965. Ce concile est atypique, parce que contrairement à tous ces conciles précédents, qui l'ont précédé, il s'est voulu pastoral et non pas dogmatique. En principe, un concile, ce qu'on appelle œcuménique, c'est-à-dire qui rassemble tous les évêques du monde, étaient rassemblés précisément pour condamner une erreur ou pour préciser un point de doctrine. C'était le rôle de ces conciles. Le concile précédent, donc c'était le Vatican Ier, fin en 1870, lui a précisé la doctrine de l'Église sur le rôle du pape, ce qu'on appelle le magistère extraordinaire. Il a défini l'infaillibilité du pape dans des conditions bien précises. Le concile précédent était le concile de Trente, donc au XVIe siècle, donc qui avait condamné le protestantisme, toutes les erreurs du protestantisme. Donc les conciles étaient toujours dans un but dogmatique. Et lui, curieusement, le pape Jean XXIII, qui l'a convoqué, s'est dit « Non, ça sera un concile pastoral. Il suffit, c'est pour l'ouverture au monde, l'aggiornamento, comme il disait, s'ouvrir au monde et mettre à la disposition du monde eh bien, la doctrine de l'Église, leur faire comprendre, un peu mieux saisir la doctrine de l'Église. » Donc c'était un but, oui, ce qu'ils appelaient pastoral, donc si vous voulez, un sermon. Or déjà, comme disait souvent Mgr Lefebvre, vous savez, dans un sermon, on peut dire des bêtises. Hein. On peut se tromper dans un sermon. Bon, c'est un petit peu le cas. Alors, je ne vais pas évidemment le regarder en détail, mais la conclusion de cette introduction, c'est pour dire que le Concile Vatican II a sorti quelques textes qu'on peut définir essentiellement ambigus. Ambigus parce qu'ils mêlent doctrine traditionnelle avec des nouveautés relativement surprenantes. Des nouveautés qui vont même, certaines, on peut dire, qui sont, disons le mot, proches quasiment de l'hérésie. En effet, une qui est célèbre, qui est dans un document du Concile, qui dit « L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique ». Qu'est-ce que ça veut dire? En principe, de manière catholique, on devrait dire « L'Église du Christ est l'Église catholique ». C'est-à-dire qu'il y a identité. L'Église voulue par le Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église catholique. Tandis que dire que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, ça veut dire qu'on admet que dans l'Église catholique, il y a aussi place pour d'autres églises. Et donc, c'est une porte ouverte, eh bien, à l'œcuménisme, tout simplement. D'admettre qu'aussi, chez les protestants, il y a une partie de l'Église catholique. Chez les orthodoxes, il y a une partie de l'Église catholique. Donc, vous voyez, cette phrase est certainement très ambiguë, si on peut dire même quasiment proxima et hérésie, donc proche de l'hérésie. Ensuite, l'autre problème de ce concile, c'est celui qu'on appelle la liberté religieuse. Bon, pour résumer tout ça, c'est tout simplement le concile donne un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être dans une fausse religion. Alors qu'avant, on parlait de tolérance. Et qu'on peut tolérer une fausse religion pour sauvegarder le bien de la paix dans un pays, par exemple. Mais on ne lui accorde aucun droit. Pourquoi ? Parce que seule la vérité a un droit, mais l'erreur n'en a pas. C'est comme si vous disiez, la maladie, on laisse la maladie, on lui accorde un droit, donc finalement, plus besoin de soigner la maladie, puisqu'elle a le droit d'exister. C'est absurde. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de médecin. C'est terminé. Non, qu'est-ce que fait le médecin ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous cherchons à lutter contre la maladie. On ne lui donne pas un droit à exister. Au contraire, on la supprime. On redonne la santé. Eh bien, l'erreur au niveau spirituel, c'est la même chose. L'erreur est une maladie de l'esprit. Donc, elle n'a pas un droit à exister. Bon, si vous voulez, tout ça, en gros, voilà les quelques problèmes qui s'est trouvé dans ce concile. Et ensuite, l'œcuménisme, évidemment. Et une révélation du concile a été justement l'après-concile. Comme c'était des textes ambigus, eh bien tout de suite ces textes ont été interprétés dans le sens voulu par ceux qui ont fait le concile. Donc ça a donné toute la débandade qu'on a vue après le concile. Juste un chiffre, un des fruits du concile, qui est assez parlant. De 1900 à 1960, je n'ai plus le chiffre exact, mais de mémoire, il y a eu à peu près 350 réductions de prêtres à l'état laïque. 350. De 1965 à 1975, donc dans tout de suite l'après-concile, 70 000. 70 000. En 10 ans. Donc 70 000 défroqués, quoi. En gros, ça veut dire ça. C'est tout. Il n'y a qu'à dire ça. Alors, l'après-concile, effectivement, fut catastrophique. Alors, à ce moment-là, Mgr Lefebvre, pendant le concile, était supérieur général des Pères du Saint-Esprit. Et pendant le concile, eh bien, il a été avec d'autres évêques, il a essayé de regrouper donc 250 évêques dans Cetus Internationalis Patrum, donc pour lutter un petit peu contre les évêques libéraux, modernistes, qui essayaient d'entrer une doctrine qui n'était pas catholique. Donc pour affirmer la doctrine traditionnelle. Donc Monseigneur disait, on a un petit peu limité la casse, mais malheureusement pas tout. Parce que le problème, c'est que le pape était du côté des évêques libéraux. Donc l'après-concile fut catastrophique. Les textes ambigus furent interprétés dans un sens libéral et moderniste. Donc ça a été une véritable révolution dans l'Église. Donc, je vous ai juste donné ces chiffres des prêtres, ça montre bien le problème. Le 20 décembre 1966, donc Mgr Lefebvre écrit au cardinal Ottaviani, parce que déjà, peu de temps après le concile, moins d'un an après, déjà le pape Paul VI s'inquiétait de certains fruits qu'il voyait dans l'Église. Alors ils avaient demandé l'avis à des évêques. Qu'est-ce qui se passait? Alors Monseigneur, voilà ce qu'il va dire, ce qu'il va écrire au cardinal Ottaviani. Donc en 1966. Le concile s'apprêtait par les commissions préparatoires à proclamer la vérité face à ses erreurs. Monseigneur Lefebvre avait participé à la commission préparatoire. Donc la préparation du concile s'était très bien faite, dans un sens tout à fait traditionnel. Mais déjà, on notait une lutte déjà entre les cardinaux progressistes et les autres. Or, cette préparation a été odieusement rejetée pour faire place à la plus grave tragédie qu'a jamais subie l'Église. Nous avons assisté au mariage de l'Église avec les idées libérales. Donc, écrit ça en 1966. Vous voyez, un an après la fin du concile. Le concile a permis à ceux qui professent les erreurs et les tendances condamnées par les papes de croire légitimement que leur doctrine était désormais approuvée. Quelles étaient les tendances et erreurs condamnées par les papes? C'était les papes Pie XI, dans le syllabus, Sympidis Lamentabili, et Pie XII, Humani Generis. Donc Pie IX avait condamné les libéraux, Sympidis les modernistes, et Pie XII les progressistes. Voilà les catégories. Donc là, Monseigneur dit, un an après, bien voilà, maintenant ceux qui ont été condamnés pensent, avec ce concile, eh bien, que leur doctrine désormais a été approuvée. C'est très flagrant de voir le cas du père Congard. Père Congard, qui a été un des théologiens du concile, alors qu'il avait été condamné sous Pie XII. Donc vous avez tous ces hommes de Lubac, pareil. Tous ces hommes qui étaient des théologiens du concile, ce sont des prêtres qui avaient été condamnés par Pie XII, quoi, après la guerre, et par l'encyclique Humani Generis. Donc ils avaient été condamnés. Et quoi, même pas, oui, disons, 10 ans, 15 ans après, et les voilà de nouveau grands théologiens en train de surtout d'aider l'aile libérale, c'est-à-dire c'était les évêques du Rhin, comme on dit, c'est les évêques allemands et les évêques français et hollandais. Monseigneur concluait, on peut et on doit malheureusement affirmer que d'une manière à peu près générale, lorsque le concile a innové, il a ébranlé la certitude de vérité enseignée par le magistère authentique de l'Église comme appartenant définitivement au trésor de la tradition. Donc si vous voulez, il faut bien partir de là, du problème du concile. Monseigneur Lefebvre a été un des membres actifs du concile, donc il savait bien de quoi il parlait. Ensuite, le 30 septembre 1968, il est amené à démissionner de son rôle de supérieur général des Pères du Saint-Esprit parce qu'il ne veut pas participer à la révolution dans sa congrégation. Donc il dit je démissionne. Ensuite, eh bien, Monseigneur ne savait plus ce qu'il devait faire. Il dit, bon, il part avec ses valises, il dit, je ne sais pas où je vais aller. Et puis, évidemment, des séminaristes vont venir le voir. Des séminaristes qui ont du mal à garder déjà cette tradition de l'Église, donc, que ce soit au séminaire français de Rome, par exemple. On envoyait tout promener, donc c'était le moment, déjà, à l'après-concile, à ce moment-là, on aurait déjà promené l'habit ecclésiastique, évidemment, donc plus de soutane, on commençait à retourner les autels, on commençait déjà à changer la liturgie, etc., etc. Donc, quelques séminaristes vont venir le voir, et il va, le 6 juin 1969, il va aller voir Monseigneur Charrière, un de ses amis, qui est évêque de Fribourg, en Suisse. Et cet évêque va accepter, donc en juin 69, ce rassemblement de quelques séminaristes avec Mgr Lefebvre. Donc il accepte. Oui, vous pouvez tout à fait rassembler ces séminaristes et commencer à les instruire et à ce qu'ils suivent les cours à l'université de Fribourg. Donc le 13 octobre de cette année 69, il se retrouve avec 9 séminaristes, dont l'abbé Olagnier et Mgr Titien Malray. L'année commence, Monseigneur commence à. Donc il fait le directeur, il fait tout, quoi. Et dans l'année, comme il a d'autres demandes, il va aller dans le Valais et des laïcs avaient acquis, déjà il y a quelque temps, une maison des chanoines du Grand Saint-Bernard qui s'appelle Écône, dans le lieu-dit Écône, sur la commune de Ride, dans le Valais. Donc le Monseigneur va voir ses laïcs, et le 24 juin 1970, ils acceptent de mettre à disposition de Monseigneur Lefebvre, donc cette maison d'Écône. Ils acceptent parce que auparavant, Monseigneur Lefebvre, voulant que tout se fasse dans l'ordre, le 19 mai 1970, était allé voir l'évêque de Sion, qui était à l'époque Monseigneur Adam. Et Monseigneur Adam lui avait donné aussi son approbation pour cette année de spiritualité, donc cette première année à faire à Écône. Ensuite, toujours le 1er juillet 1970, Monseigneur Lefebvre est reçu de nouveau par Monseigneur Charrière, pardon, et son auxiliaire, Monseigneur Mamy. Et il va leur donner une ébauche des statuts de la Fraternité Saint-Pilice. Le 18 août, Monseigneur Charrière confirme l'autorisation donnée à Monseigneur Lefebvre d'ouvrir à Fribourg une maison de caractère international destinée à recevoir des aspirants au sacerdoce qui suivent les cours à l'université. Donc Monseigneur Charrière confirme pour cette deuxième année cette autorisation. Et puis Monseigneur a donné ses statuts, donc il sollicite un peu plus Monseigneur Charrière. Et voilà donc date importante, le 1er novembre 1970, Monseigneur Lefebvre obtient le décret d'érection de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice. Alors voilà le commentaire qu'en fait Monseigneur Lefebvre. Alors d'abord le décret lui-même, qu'est-ce qu'il dit Monseigneur Charrière, est érigé dans notre diocèse au titre de Pia Unio, la fraternité sacerdotale internationale Saint-Pilice. Nous approuvons et confirmons les statuts 6 juin de la fraternité pour une période de 6 ans, ad experimentum, période qui pourra être suivie d'une autre semblable par tacite reconduction, après quoi la fraternité pourra être érigée définitivement dans notre diocèse ou par la congrégation romaine compétente. Fait à Fribourg, en notre évêché, 1er novembre 1970, en la fête de la Toussaint, François Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Alors, Monseigneur, qu'est-ce qu'il dit ? Cela n'était-il pas providentiel? Cette date du 1er novembre 1970 est à mes yeux un événement capital dans notre histoire. C'est l'acte de naissance officiel de la fraternité. C'est l'Église qui, ce jour-là, l'a enfantée. La fraternité est une œuvre d'Église. Pour moi, j'aurais eu horreur de fonder quoi que ce soit sans l'approbation d'un évêque. Il fallait que ce soit d'Église. Un signe de la Providence. Donc, la fraternité est fondée de manière tout à fait légale, hein, tout à fait canonique. Alors, quels sont les statuts de la fraternité? Qu'est-ce que Monseigneur disait dans ses statuts? Très rapidement, hein, je vous dis quand même qu'est-ce que c'est. La fraternité est une société sacerdotale de vie commune sans vœu, à l'exemple de la Société des Missions étrangères. Cependant, elle est constituée dans un esprit de foi profonde et d'obéissance parfaite à la suite du divin maître. Donc, c'est-à-dire, société de vie commune sans vœu, eh bien, nous sommes appelés à vivre en commun, d'où ce qu'on appelle les prieurés, les séminaires, les écoles, où nous vivons plusieurs prêtres ensemble. Le but de la fraternité, orienter et réaliser la vie du prêtre vers ce qui est essentiellement sa raison d'être, le saint sacrifice de la messe. La fraternité est mise spécialement sous le patronage de Jésus prêtre, dont toute l'existence a été et demeure sacerdotale, et pour qui le sacrifice de la croix a été la raison d'être de son incarnation. Aussi les membres de la fraternité, pour qui le mihi vivere Christus es, pour moi vivre c'est le Christ, est une réalité, vivent tout orientés vers le sacrifice de la messe qui prolonge la sainte passion de notre Seigneur. La fraternité est aussi sous l'égide de Marie, mère du prêtre par excellence, et par lui mère de tous les prêtres en qui elle forme son fils. Elle leur découvre les motifs profonds de leur virginité, condition de l'épanouissement de leur sacerdoce. Voilà, très résumé, le but de la fraternité. Donc, statut approuvé par un évêque, Monseigneur Charrière. Commence son œuvre. Donc, à Écône, approbation de Monseigneur Adam, évêque de Sion, et à Fribourg, de Monseigneur Charrière. Mais nous sommes en 1970. Dès le début, va se poser un problème. Le problème de la messe. Saint Pie V, en 1570, avait fait une bulle, la bulle Coprimum. Après la révision donc, du rite de la messe, qui avait été demandée par le Concile de Trente. Le Concile de Trente avait demandé la révision du rite de la messe. Pourquoi ? Pour revenir à la pureté primitive du rite romain. C'est-à-dire, en clair, pour débarrasser le rite de la messe un petit peu de tous les ajouts qui s'étaient faits au cours de l'histoire. Donc, le Concile de Trente demande eh bien, qu'on revienne au rite romain le plus pur possible. Donc, après cette révision, c'est le pape donc Saint Pie V qui maintient le missel romain tel que l'a codifié Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand, qui est pape de 590 à 604. Et ce pape qui certainement n'a pas créé lui-même cette messe, évidemment. Ce n'est pas Saint Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, qui a créé cette messe, mais qui l'avait aussi reçue de la tradition. Donc Saint Pie V, qu'est-ce qu'il fait? Il confirme par cette bulle une tradition qui est vieille d'au moins 10 siècles. Donc Saint Pie V, quand on dit de messe Saint Pie V, n'a pas créé une messe. Non, tout simplement, il a promulgué cette révision du rite de la messe qui remonte aux temps les plus antiques. En 1969, au contraire, eh bien Paul VI, lui, crée artificiellement un rite nouveau. C'est vraiment un rite nouveau. Et pour présenter ce nouveau rite, il y a ce qu'on appelle une institutio qui va présenter et avec un fameux article 7 qui, je pense, est toujours bon de relire, même si vous connaissez, je pense. Voilà comment cet article 7 de l'institutio generalis était intitulé. La scène du Seigneur, ou messe, est la synaxe sacrée où le rassemblement du peuple de Dieu, se réunissant ensemble sous la présidence du prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi le rassemblement de l'Église locale réalise de façon éminente la promesse du Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est la définition de la nouvelle messe. Enfin, nouvelle messe, ou pardon, de la scène du Seigneur, ou de la synaxe, pardon. Donc, évidemment, devant cette définition, il y a eu un certain lever de bouclier. Donc, il a conduit certains théologiens à faire ce qu'on a appelé le bref examen critique de la nouvelle messe. Ce bref examen critique a été précédé d'une lettre de présentation, qui avait été signée par les cardinaux Ottaviani et Bacci. Ottaviani n'était pas n'importe qui, c'était le préfet du Saint-Office, qu'on appelle maintenant Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc là, ces évêques, voilà ce qu'ils disaient dans la lettre, le nom, donc la nouvelle messe, représente dans l'ensemble comme dans le détail un impressionnant éloignement de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 22e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui put toucher l'intégrité du mystère. Les deux cardinaux qui signent cette lettre et qui est présentée au pape Paul VI. Malheureusement, ça n'y fait rien. Bon, le pape réunit quelques personnes. Enfin bref, il maintient, on change juste ce fameux article 7. Disons, on le modifie légèrement, mais le sens profond reste le même. En tout cas, la nouvelle messe, on ne change rien. Elle reste telle qu'elle. Donc, au moment, cette nouvelle messe est promulguée le premier dimanche de l'Avent 1969, mais il y a une période plus ou moins longue d'adaptation, et elle doit devenir obligatoire en 1971. Et au moment où cette messe devient obligatoire officiellement, Mgr Lefebvre refuse de la prendre et garde la messe traditionnelle. Alors, pourquoi refuse-t-il de la prendre ? Il le dira plusieurs fois, mais voilà un petit résumé de sa position. Tant les critères externes, les circonstances de son institution, que les critères internes, l'analyse du rite, et que les fruits de la nouvelle messe montrent que celle-ci, sans être hérétique, concourt à la perte de la foi et qu'elle ne saurait être une vraie loi, puisqu'elle ne concourt pas au bien commun. Non, ce n'est pas de manière purement accidentelle et extrinsèque que cette messe est mauvaise, il y a en elle quelque chose qui est vraiment mauvais, elle a été faite sur le modèle de la messe de Kroner et celle de Thésée. Comme je l'ai dit d'ailleurs à Rome à mes interrogateurs, c'est une messe empoisonnée. Qui a présidé à cela ? Qui a voulu changer notre spiritualité ? On nous a empoisonné notre liturgie. Certains disent « oui, mais c'est un poison lent ». Oui, c'est un poison lent, mais un poison quand même. Donc Monseigneur la considère intrinsèquement, mauvaise, parce qu'elle fait perdre la foi. Donc, il refuse, il garde la messe traditionnelle. Alors, évidemment, maintenant, va commencer les offensives contre Écône. Dès 1972, ce sont les évêques français qui s'y mettent, qui vont traiter Écône comme séminaire sauvage. Alors que Monseigneur dit, nous avons été reconnus sans aucun problème, donc ce n'est pas le cas. Alors, malgré donc ces attaques, une visite canonique du séminaire d'Écône va être effectuée du 11 au 13 novembre 1974. Très intéressant de voir comment ça s'est passé. Donc Monseigneur en fait une relation. Donc on est en 1974. Il était évident que des démarches étaient faites auprès de Rome pour notre suppression. Donc ça fait 4 ans. Que la fraternité existe. Bon, 5 ans si on compte la première année de 69, mais disons officiellement elle existe depuis 4 ans. Donc déjà des démarches sont faites pour la supprimer. Or le 9 novembre, une lettre de l'annonciature de Berne nous annonçait qu'une commission désignée par le pape est composée de 3 cardinaux, préfet Des congrégations intéressées, religieux, éducation catholique, clergé, nous envoyaient des visiteurs apostoliques, Mgr Descamps et Mgr Onclin. Le lundi 11 novembre, à 9h du matin, les deux visiteurs se présentèrent. Durant 3 jours, ils interrogèrent 10 professeurs, 20 élèves sur les 104 et moi-même. Ils sont partis le 13 novembre à 18h sans qu'aucun protocole de visite n'ait été signé. Nous n'avons jamais eu la moindre connaissance de la relation qu'ils ont faite. Persuadés que cette visite était le premier pas accompli en vue de notre suppression, désirée depuis longtemps par tous les progressistes, et constatant que les visiteurs venaient avec le désir de nous aligner sur les changements opérés dans l'Église depuis le Concile, je décidai de préciser ma pensée devant le séminaire. Je ne pouvais adhérer à cette Rome que représentaient des visiteurs apostoliques qui se permettaient de trouver normal, donc des visiteurs apostoliques, et fatal l'ordination de Jean marié, qui n'admettent pas une vérité immuable, qui émettent des doutes sur la manière traditionnelle de concevoir la résurrection de notre Seigneur. Donc, vous voyez, c'est pas mal de la part d'évêques. Bon, de toute façon, c'est normal qu'on arrive à les ordinations du genre marié, de prêtres mariés, que la résurrection, oh, on n'est pas bien sûr que cette fois bien eu lieu réellement, etc. Et puis la vérité, vous savez, elle est changeante. Alors, devant ça, Monseigneur va faire cette fameuse 14. Bon, je pense que vous la connaissez ou vous en avez entendu ou entendu parler. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, etc. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique, clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. S'il arrivait, dit saint Paul, que nous-mêmes ou un ange venu du ciel vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Bon, je passe, mais toute cette déclaration, qui est relativement courte, est à lire, qui exprime bien comment Monseigneur Lefebvre voyait la chose. Ensuite, Monseigneur continue. 2 mois et demi sont passés sans aucune nouvelle. Le 30 janvier 1975, j'ai été invité par lettre signée par les membres de la commission à venir à Rome m'entretenir avec eux des points qui laissent quelque perplexité. Répondant à cette invitation, je me suis rendu le 13 février 1975 à la congrégation de l'éducation catholique. Les cardinaux Garonne, Wright et Tabera m'ont invité à prendre place autour d'eux et autour d'une table. Je passe. Après m'avoir dit la bonne impression recueillie par les visiteurs apostoliques, il n'a plus été question de la fraternité et du séminaire. Il n'a été question que ma déclaration du 21 novembre 1974, faite à la suite de la visite apostolique. Avec véhémence, le cardinal Garonne m'a reproché cette déclaration, allant jusqu'à me traiter de fou, me disant que je me faisais Athanase, et cela pendant 25 minutes. Patience de Monsieur Lefebvre. Le cardinal Tabera renchérit, me disant que ce que vous faites est pire que ce que font tous les progressistes, que j'avais rompu la communion avec l'Église, etc. Me trouvais-je devant des interlocuteurs, ou plutôt des juges? Quelle était la compétence de cette commission? On m'affirmait seulement qu'elle était mandatée par le Saint-Père, que c'est lui qui jugerait. Il était clair que tout était jugé. Bon, j'ai essayé de formuler des arguments, etc. J'affirmais que je respectais et respecterais toujours le pape et les évêques, etc. À la fin de la séance, j'ai eu l'impression d'avoir été trompé. On m'invitait pour un entretien et en fait, j'avais affaire à un tribunal décidé à me condamner. Rien n'a été fait pour m'aider à un compromis ou une solution amiable. Aucun écrit ne m'a été donné pour préciser les accusations, aucune monition écrite. Seul l'argument d'autorité accompagné de menaces et d'invectives m'a été présenté pendant 5 heures d'entretien. Ainsi donc, après ce simulacre de procès fait d'une visite soi-disant favorable, avec de légères réserves et de 2-3 entretiens qui n'ont porté que sur ma déclaration pour la condamner totalement sans réserve, sans nuance, sans examen concret et sans qu'il me soit remis le moindre écrit, je recevais coup sur coup une lettre de son Excellence Mgr Mamie. Mgr Mamie, c'est lui qui avait succédé à Mgr Charrière, évêque de Fribourg. supprimant la fraternité et le séminaire avec l'approbation de la commission cardinalis, puis une lettre de la commission confirmant la lettre de Mgr Mamie sans que soit formulée une accusation formelle et précise sur les propositions des propositions données. Et la décision de dit Mgr Mamie est immédiatement exécutive. Je devais donc immédiatement renvoyer du séminaire 104 séminaristes, 13 professeurs et le personnel, et cela 2 mois avant la fin de l'année scolaire. Il suffit d'écrire ces choses pour deviner ce que peuvent penser les personnes qui ont encore un peu de sens commun et d'honnêteté. Nous étions au 8 mai de l'année de la réconciliation. Donc, suppression en 1975 de la fraternité. Donc le 6 mai 1975, suppression de la fraternité. Alors, évidemment, Monseigneur ne va pas en tenir compte. Il dit, j'ai aucun motif de condamnation, on ne m'a rien dit, donc je considère cela comme illégitime, donc je poursuis. Mais évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va arriver le problème des ordinations, surtout ça, parce que Monseigneur continue son séminaire. Et on arrive donc en 1976... Monseigneur Benelli, qui est en charge du dossier, va écrire à Monseigneur Lefebvre en disant, en interdisant à Monseigneur Lefebvre de faire des ordinations en 1976. Donc, le 12 et 25 juin, Monseigneur Benelli lui interdit de mandat spécial du Saint-Père et il précise, si vos séminaristes, dit-il, sont sérieusement préparés à un ministère presbytéral dans la fidélité véritable à l'Église conciliaire, on se chargera ensuite de trouver la meilleure solution pour eux. La fameuse expression Église conciliaire. Et même un prêtre, le père Danis, l'avant-veille, vient trouver Monseigneur en disant, avec un missel de Paul VI, « Monseigneur, si aujourd'hui même vous acceptez de dire avec moi cette messe de Paul VI, tout est aplani avec Rome. » Monseigneur répond laconiquement, « J'ai déjà célébré la messe. » Bref, donc Monseigneur passe outre la défense et le 29 juin 1976, il fait ses ordinations. Alors, pour bien comprendre ses ordinations, il est bon de réécouter ou de relire son serment donc, qui a été publié, serment historique, donc ce serment de 1976, parce que Mgr Lefebvre explique la raison et pourquoi toutes les censures qu'il va subir après, il les considère comme illégitimes. Je vais permettre juste de lire quelques petits passages qui expliquent bien. Ah, je sais bien, donc c'est le serment du 29 juin 76. Je sais bien que les difficultés sont nombreuses dans cette entreprise qu'on nous dit téméraire. On nous dit que nous sommes dans une impasse. Pourquoi? Parce que de Rome nous sont parvenus, surtout depuis 3 mois, depuis le 19 mars en particulier, des objurgations, des supplications, des ordres, des menaces pour nous dire de cesser notre activité, pour nous dire de ne pas faire ces ordinations sacerdotales. Elles ont été pressantes ces derniers jours. Depuis 12 jours en particulier, nous ne cessons de recevoir des messages ou des envoyés de Rome nous enjoignant de nous abstenir de faire ces ordinations. Mais si, en toute objectivité, nous cherchons quel est le motif véritable qui anime ceux qui nous demandent de ne pas faire ces ordinations, si nous recherchons leur motif profond, nous voyons que c'est parce que nous ordonnons ces prêtres afin qu'ils disent la messe de toujours. Et c'est parce que l'on sait que ces prêtres seront fidèles à la messe de l'Église, à la messe de la tradition, à la messe de toujours qu'on nous presse de ne pas les ordonner. Et j'en veux pour preuve le fait que 6 fois depuis 3 semaines, 6 fois, on m'a demandé de rétablir des relations normales avec Rome et de donner pour témoignage de recevoir le rite nouveau et de le célébrer moi-même. On est allé jusqu'à m'envoyer quelqu'un qui m'a offert de concélébrer avec moi dans le rite nouveau afin de manifester que j'acceptais volontiers cette nouvelle liturgie et que de ce fait, tout serait aplani entre nous et Rome. On m'a mis dans les mains un missel nouveau en me disant « Voilà la messe que vous devez célébrer et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. On m'a dit également que si en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Ainsi donc, il est clair, il est net que c'est sur le problème de la messe que se joue tout le drame entre Écône et Rome. Ensuite, il précise, est-ce que nous avons le tort de nous obstiner à vouloir garder le rite de toujours, dont il explique pourquoi, que non, c'est le rite de la foi, alors que la nouvelle messe est un symbole, une expression, une image d'une foi nouvelle, d'une foi moderniste. Il précise, il est évident que le rite nouveau suppose une autre conception de la religion catholique qu'une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme. Et après, il précise sa pensée. Demain, peut-être, dans les journaux, paraîtra notre condamnation. C'est très possible. À cause de cette ordination d'aujourd'hui, je serai frappé d'une suspense. Probablement, ces jeunes prêtres seront frappés d'une irrégularité qui, en principe, devrait les empêcher de dire la Sainte Messe. C'est possible. Eh bien, je fais appel à Saint Pie V. Saint Pie V qui, dans sa bulle, a dit qu'à perpétuité, aucun prêtre ne pourra encourir une censure, quel qu'il soit, s'il dit cette messe. Et par conséquent, cette censure, cette excommunication, s'il y en avait une, seront absolument invalides, contraires à ce que Saint Pie V a affirmé dans sa bulle à perpétuité. Jamais, en aucun temps, on ne pourra infliger une censure à un prêtre qui dira cette messe. Pourquoi ? Parce que cette messe est canonisée. Cette messe a été canonisée par Saint Pie V, et c'est pourquoi nous pouvons la dire en toute tranquillité, en toute sécurité, et même être certains qu'en disant cette messe, nous professons notre foi, nous entretenons notre foi, et nous entretenons la foi des fidèles. C'est la meilleure manière de l'entretenir. Alors, pour être sûr que Mgr Lefebvre ne vous mente pas, la bulle Coprimum du pape Saint Pie V. Je vous lis juste deux petits extraits. Par les dispositions des présentes et au nom de notre autorité. Ah pardon, oui, juste avant. Par notre présente constitution qui est valable à perpétuité. C'est Saint Pie V qui parle. Nous avons décidé et nous ordonnons, sous peine de notre malédiction, que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à notre missel que nous venons d'éditer. Par les dispositions des présentes et au nom de notre autorité apostolique, nous concédons et accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité dans la messe chantée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu'on pourra valablement l'utiliser librement et licitement, et cela à perpétuité. Nous avons décidé et déclarons que prêtres de quelque nom qu'ils seront désignés, ou les religions de quelque ordre ne peuvent être tenues de célébrer la messe autrement que nous l'avons fixée, et que jamais et en aucun temps, qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel ou à abroger la présente instruction ou la modifier, mais qu'elle demeurera toujours en vigueur et valide dans toute sa force. Conclusion. Qu'absolument personne, donc, ne puisse déroger à cette page qui exprime notre permission, notre décision, notre ordonnance, notre commandement, notre précepte, notre concession, notre indulte, notre déclaration, notre décret et notre interdiction, ou n'ose témérairement aller à l'encontre de ces dispositions. Cependant, si quelqu'un se permettait une telle altération, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ce bienheureux apôtre Pierre et Paul. Donné à Rome, à Saint-Pierre, l'an 1570 de l'incarnation du Seigneur, la veille des Ides de juillet, en la cinquième année de notre pontificat. C'est clair. C'est vraiment clair. Donc, si vous voulez, Monseigneur a dit, je suis condamné parce que je dis cette messe promulguée par Saint Pie V. Donc, les suspenses, toutes les censures sont invalides. Voilà ce grand problème, mais je pense qu'il est central, hein, ce problème de 76, parce que tout le reste va découler de ce problème-là. Ensuite, j'allais dire, je passe toutes ces années. Bon, bien sûr, mort Paul VI, arrivée de Jean-Paul II. Jean-Paul II qui va recevoir tout de suite Mgr Lefebvre. On croyait quand même à un certain espoir. Et puis finalement, rien n'a bougé. Et tout cela arrive jusqu'en 87, évidemment, quand Mgr Lefebvre va de nouveau remettre les choses sur le terrain pratique. Parce que voyant l'âge avancé, eh bien, le prélat, évidemment, devait penser à sa succession. Donc en juin 87, Mgr annonce son intention de sacrer des évêques, de se donner des successeurs. Cardinal Ratzinger réagit tout de suite, le reçoit le 14 juillet, visite apostolique du cardinal Gagnon fin en décembre 1987, du 8 novembre au 8 décembre 1987, discussion, fameux protocole d'accord du 5 mai 88. Dès le lendemain, Monseigneur retire sa signature parce qu'il s'aperçoit que Rome n'a pas les mêmes vues que lui, puisque la date du sacre de l'évêque est repoussée sans date précise. Donc Monseigneur se dit, ils m'ont eu. Donc il arrive, il pose les sacres du 30 juin 1988. Qu'est-ce qui justifie cette cérémonie, ces sacres? C'est l'état de nécessité. L'état de nécessité, vous avez une très bonne explication dans ce petit livre, La Tradition Excommuniée, donc qui vous explique de manière très claire ce problème de l'état de nécessité. Bon, le temps passant vite. Juste peut-être vous donner quelques points, si vous voulez plus de précision, lisez, hein, Tradition Excommuniée par le courrier de Rome, vous avez vraiment tout ça dedans. Bon, l'état de nécessité, c'est ce qui permet de ne pas subir une peine qui est prévue. Comme dit les juristes, c'est un état dans lequel les biens nécessaires à la vie naturelle ou surnaturelle se trouvent menacés de telle sorte que l'on se trouve normalement contraint pour les sauvegarder d'enfreindre la loi. Par exemple, de manière naturelle, vous avez faim, vous n'avez plus rien, eh bien, ce n'est pas du vol que d'aller prendre de la nourriture chez le voisin ou à l'étalage de l'épicier. Parce que vous n'avez plus rien à manger, eh bien là, il y a une nécessité qui est plus importante, qui est votre survie. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait de manière légitime, et il n'y a pas de faute de votre part, vous servir pour manger. Bon, voilà un état de nécessité sur le plan naturel. Bon, sur le plan surnaturel, c'est la même chose. Vous voyez, les lois dans le code de droit canon sont ordonnées. Elles n'ont pas toutes mêmes valeurs. Alors évidemment, il faut prouver qu'il existe un état de nécessité dans l'Église. Et je crois que tout le problème est là. Tout le problème qui nous sépare de la Fraternité Saint-Pierre, Institut du Christ-Roi, de tout ce qu'on appelle les ralliés, si vous voulez, entre guillemets, et d'une certaine mesure même de Campos, est là. C'est y a-t-il, oui ou non, un état de nécessité dans l'Église? Si vous répondez non, dans ce cas-là, évidemment, nous sommes effectivement schismatiques. Si nous répondons oui, il y a un état de nécessité, dans ce cas-là, évidemment, notre action est tout à fait légitime. Monseigneur Lefebvre, évidemment, il a répondu oui à la question. L'état de nécessité, eh bien, regardez, ouvrez les yeux, qu'est-ce qui se passe dans l'Église, surtout depuis ce fameux concile, Vatican II. Tous les nouveaux catéchismes approuvés, imposés par les conférences épiscopales, qui sont hérétiques, fameux catéchismes hollandais, où on ne croit plus, bien sûr, à l'ascension de notre Seigneur, ça c'est une poésie, etc., où les dogmes sont minés, donc catéchisme inexistant. Toutes les homélies, les masses médias catholiques, la presse soi-disant catholique, toutes les vérités de foi, de morale sont passées au crible. Ouvrez les yeux, lisez la croix, lisez ce que vous voulez, vous verrez, c'est plus catholique. Toutes les initiatives œcuméniques, ça évidemment, Monseigneur Lefebvre, c'est surtout fondé là-dessus, du pape, sa visite à la synagogue, c'est évidemment les réunions d'assises, le pape qui baise le Coran, etc. Donc tout ça, si vous voulez, dilue la foi. Objectivement, même si ce n'est peut-être pas l'intention du pape, ça on ne connaît pas son intention, peu importe, on ne juge pas, on juge des faits. Objectivement, ça fait croire que toutes les religions se valent. Donc, on se sauve par toutes les religions. Et donc, évidemment, eh bien, prolifération des sectes, diminution des catholiques, etc. Donc, vraiment, objectivement, l'œcuménisme est un désastre. Désastre dans l'Église. Et il y a vraiment un état de nécessité pour les âmes. Et puis, évidemment, toute la liturgie. Bon, il suffit de voir souvent, d'assister à des messes, de mariage, d'enterrement, c'est... Enfin, bon. C'est plutôt des kermesses. Enfin, je suis un peu dur, mais c'est... Malheureusement, c'est vrai. Ensuite, état de nécessité pour les séminaristes. Les séminaristes, est-ce qu'il fallait que Monseigneur ferme son séminaire alors que tous les séminaires se vident, qu'il n'y a plus la véritable doctrine qui est enseignée aux séminaristes, etc. Il y avait un véritable état de nécessité, objectivement. Monseigneur Lefebvre a épuisé tous les moyens ordinaires pour essayer de poursuivre son œuvre. Combien de fois est-il allé à Rome? Mais on voulait qu'une chose, on attendait qu'il meure. En clair, c'était ça. Vous êtes taisez-vous. Bon, vous avez peut-être un charisme, mais taisez-vous, ne dites plus rien. Et puis comme ça, on attendait tout simplement qu'il meure. Donc toutes les discussions n'ont abouti à rien. Ensuite, est-ce que l'acte posé par Monseigneur Lefebvre, donc le sacre des évêques, est-il un acte intrinsèquement mauvais? Ce qu'on n'aurait évidemment pas le droit de poser. Même en cas de nécessité, on n'a pas le droit de faire un péché. C'est évident. Donc là, un acte de désobéissance à une législation canonique, en soi, ne constitue pas un schisme. C'est un acte de désobéissance, certes, mais ce n'est pas intrinsèquement mauvais. Un théologien, donc Cachetan, précise que lorsque le refus d'obéir concerne la matière de la chose commandée ou encore la personne même du supérieur, sans pourtant que soit mis en cause l'autorité ou même la personne du supérieur, il n'y a pas schisme. Alors évidemment, Monseigneur Lefebvre n'a jamais remis en cause l'autorité du pape. Il a dit « oui, je passe outre cet ordre de ne pas sacrer des évêques parce qu'il y va du bien des âmes » et des séminaristes, donc il y a objectivement un état de nécessité, mais pour l'instant, je ne mets pas en cause, évidemment, le pontificat du pape. Donc l'acte posé par Mgr Lefebvre n'est pas intrinsèquement mauvais, parce qu'il n'est pas de nature schismatique, ni inspiré par une intention schismatique. Et la désobéissance est purement matérielle, imposée par l'état de nécessité. Donc Mgr Lefebvre s'est non plus jamais arrogé le droit de conférer aux évêques, aux nouveaux évêques, une juridiction qui dépend que du pape. Jamais. Ça, Mgr Lefebvre n'a jamais donné une juridiction aux évêques. Au contraire, bon, vous connaissez cette lettre, je vous confère cette grâce de l'épiscopat, confiant que sans tarder, le siège de Pierre sera occupé par un successeur de Pierre parfaitement catholique, en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat pour qu'il la confirme. Et ensuite, l'autorité du pape n'est jamais mise en question. Je vous conjure de demeurer attaché au siège de Pierre, à l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les églises, dans la foi catholique intégrale, exprimée dans les symboles de la foi, dans le catéchisme du Concile de Trente, conformément à ce qui vous a été enseigné dans votre séminaire. Donc, puisqu'il n'y a pas de schisme, eh bien, l'excommunication n'est pas valable, puisque l'état de nécessité fonde un droit de nécessité. Donc, l'excommunication ne vaut pas plus pour les fidèles qui ne veulent pas adhérer au schisme de Monseigneur puisqu'il n'y a pas de schisme. Et les traditionnistes ne veulent pas adhérer à un schisme. Bien au contraire, on reste attaché à l'Église catholique. Donc bien se rappeler qu'est-ce qui fonde cette cérémonie, ces sacres, ces consécrations des évêques, c'est vraiment l'état de nécessité. Et il suffit de regarder, vraiment être aveugle pour ne pas voir cet état de nécessité. Voilà, donc je pense en conclusion, on peut vraiment dire que nous sommes ni hérétiques, ni schismatiques. Et d'ailleurs, c'est clair, même les différentes conversations qui ont eu lieu en l'an 2000, après le pèlerinage à Rome, les contacts qui sont gardés, eh bien, prouvent bien justement que nous ne sommes pas schismatiques. Notre but n'est pas précisément de fonder une église parallèle. Au contraire, si nous gardons toujours des contacts avec Rome, c'est justement dans le but d'abord de prêcher à temps et à contre-temps, d'inciter Rome à revenir à la tradition telle qu'elle a été divulguée dans l'église jusqu'au Concile Vatican II. Donc notre but est celui-là, c'est tout. Et d'essayer d'ouvrir, de faire ouvrir les yeux à tous ces prélats pour leur dire, mais regardez, l'Église est en train de se détruire, on va à la ruine, il n'y a plus de vocation, etc. Donc ni hérétique, ni schismatique. Donc schismatique, ça voudrait dire faire une petite Église. voudrait dire effectivement vouloir se constituer en une église, ce qui n'est absolument pas notre cas. Bon, Mgr Fay a toujours dit, voilà, c'était sa formule, donc, ni tomber dans le libéralisme, donc se préserver de l'hérésie, ni tomber dans le cédévacantisme, qui est, je dirais, un chemin qui mène, là, du coup, au schisme. Cédévacantiste, rapidement, à mon avis, est une voie sans issue. Bon, il n'y a qu'à voir tous ces prêtres entre eux, ils sont tous divisés les uns entre eux. Il n'y a pas un qui est d'accord avec un autre. Il y a plusieurs groupes. Ils ont souvent leur évêque personnel. Donc, ils sont tous divisés. Et ça, déjà, rien que ça, ce n'est pas un signe catholique. Leur problème, c'est qu'ils fondent leur opinion comme un dogme. Toute opinion, par définition, peut supposer l'opinion contraire comme vraie. Mais eux font de leur opinion un dogme. Donc pour eux, hors de leur opinion, il n'y a pas de salut. Et c'est précisément des opinions qui ne sont absolument pas traditionnelles. Parce que nulle part dans l'histoire de l'Église, et Dieu sait qu'il y a eu des crises dans l'Église, jamais, même les papes, les mauvais papes, jamais personne n'a dit « vous n'êtes pas pape ». Des évêques dans l'Église se sont opposés au pape. Bon, le premier, ça a été Saint-Paul qui s'est opposé à Saint-Pierre. Il y a eu des évêques qui ont menacé, qui ont désobéi au pape, parce qu'ils erraient, ils n'enseignaient plus la vraie doctrine, mais jamais ils n'ont dit « ah ben non, vous n'êtes pas pape ». Jamais. Ça peut être un mauvais pape, mais ce n'est pas parce que, par un malheur, on peut avoir des parents qui sont mauvais que ce ne sont plus nos parents, évidemment. Ce sont malheureux, ils restent nos parents, même si peut-être ils sont mauvais dans une mauvaise voie, mais ça reste nos parents. Donc, ben, on peut exactement appliquer la même chose au pape. Voilà, et puis, dernière chose, j'aurais voulu vous parler un petit peu. Ce que Mgr Le Fay disait aussi, un des signes, donc que la fraternité sacerdotale est vraiment, Saint Pie X, c'est une œuvre d'Église, bon, le fait de la reconnaissance officielle par l'Église, et qu'elle soit bénie par la Providence, c'est qu'elle se développe, mais non pas uniquement en Europe, mais qu'elle sorte de l'Europe, qu'elle se développe dans le monde entier. Et ça, c'est M. l'abbé Schimmerger qui me l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'il avait entendu de Mgr Le Fay. Il dit, Mgr Le Fay en faisait un signe en disant, si notre œuvre se développe dans le monde entier, eh bien c'est un signe qu'elle est bénie de Dieu. Et c'est amusant parce que peut-être Mgr Le Fay, le disait-il comme ça, pour lui c'était un signe. Mais il y a aussi Saint Ignace avait dit un petit peu la même chose lorsqu'il a fondé la Compagnie de Jésus. Il a dit, si la Compagnie de Jésus sort de l'Espagne, c'est aussi un signe de la bénédiction de Dieu. Bon, les jésuites, évidemment, sont répandus partout. Eh bien, si vous voulez, j'ai pris les derniers chiffres, si ça vous intéresse, un petit peu de notre divulgation dans le monde entier. Nous sommes aujourd'hui, donc j'ai arrêté la liste au 17 juillet 2003, nous sommes dans la fraternité 453 prêtres. Nous sommes répandus dans 168 maisons dans le monde entier. Donc, le district le plus important, c'est la France, qui comporte 53 maisons avec 128 prêtres. Je ne parle que de la fraternité. Donc 53 maisons, bon, Fidélitaire vous donne toujours généralement les dernières nouvelles. Bon, le dernier prieuré que nous ayons installé, c'est celui de Gragnane, donc Toulouse. Et celui de Tours aussi. Et puis là, je pense qu'un des prochains sera certainement la nouvelle maison de retraite, qui est en train de se... Donc les travaux vont commencer entre Angers et Chemillé, pour remplacer le Courtalin. Donc là, ça permettra de rassembler les prêtres qui sont à Thouars actuellement et dont le prieuré, ils desservent Saumur, Angers. Je ne sais pas si c'est eux qui desservent Chemillé, enfin, je ne sais plus trop. Enfin bref, on va les remonter un peu plus au nord, donc à côté d'Angers, entre Angers et Chemillé. Donc il y a cette belle propriété qui va être en même temps une maison de retraite, retraite spirituelle. On pourrait peut-être un jour aller en retraite là-bas. C'est vraiment un très bel endroit, plein de vignes. Donc c'est comment ça ? Enfin bref, non, je le nom m'échappe. Bref, voilà. Donc pour la France, bon, vous connaissez. Ensuite, évidemment, on tombe, c'est plus hôpitaux. Il y a l'Allemagne qui a 17 maisons, 40 prêtres. Alors commençons aussi par le plus important. Donc la maison générale se trouve à Menzingen. Donc comme la plupart le pensent, ce n'est pas en Allemagne. C'est en Suisse, dans le canton de Zoug. C'est où ça? Ah, les Français et leur géographie. Oui, il faut dire qu'effectivement, il faut dire que Zoug est quand même le canton le plus petit de Suisse. Hein. Le plus petit. Donc il faut viser Zurich. Viser Zurich. Donc à peu près Zurich, on sait à peu près où ça se situe. C'est au nord de la Suisse, nord-est de la Suisse. Donc Zoug, vous prenez à peu près 40 km au sud de Zurich et vous tombez sur Zoug. Donc un canton, un petit canton très, très agréable. Et donc à 10 km de Zoug, donc qui est la ville principale, eh bien, il y a Menzingen. Et nous, on se trouve à 1 km, 1 km et demi de Menzingen, à Schwandeck, perdu au milieu des vaches, des fermes. Donc on entend toujours les cloches des vaches. Donc c'est vrai que c'est très calme. C'est très calme. D'ailleurs, c'est très bien parce que quand on rentre de voyage, de courir un peu partout, on souffle et c'est vrai que d'avoir le bruit paisible des vaches, c'est reposant. Bref, donc voilà, si vous passez un jour en Suisse, à Menzingen, ben, n'hésitez pas à vous arrêter, voir la maison. Nous sommes quatre prêtres. Attendez, Monseigneur Felet, comptez. 1, 2, 3, 4. Oui, non, nous sommes quatre, dont Monseigneur Felet. Bref, avec 8 oblates aussi, un frère. Ensuite, nous avons 6 séminaires. Donc, Flavigny, évidemment, Econ, Zeiskofen, en Allemagne, La Rera, en Argentine, Winona, aux États-Unis, et Goulburn, en Australie. Donc, vous avez à La Rera, on a construit une belle église aussi. Bon, Econ, évidemment, je pense que vous connaissez l'église d'Econ. Et l'église à La Rera. Donc, vous avez, pour la voir, c'était une très belle église construite en style colonial. Vous avez une photo dans le réfectoire. Bon, évidemment, comme vous êtes en silence, vous ne regardez nulle part. Vous êtes pieusement en train de regarder votre assiette. Bon, alors je vais vous indiquer à la fin de la retraite. Et je pense que vous ne tiendrez pas jusque-là. au-dessus des casiers, donc la table des prêtres, il y a des casiers, on met nos serviettes. Au-dessus, vous avez un cadre avec une photo. On va voir ce soir. Donc vous avez une photo, ben c'est photo du séminaire de La Rera, avec justement la belle église en style colonial, et le séminaire de La Rera. Voilà. Les Indes, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Autriche, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Mexique, Suisse. Voilà nos différents districts. Et ce qu'on appelle des maisons autonomes, donc qui sont des districts en formation, qui souvent comportent 2 ou 3 maisons. Afrique du Sud, alors qui comporte en même temps le Zimbabwe. Belgique. Ah oui, alors Belgique, au contraire, avec les Pays-Bas, la Hollande, vient d'être érigée en district. Donc on a des maisons en Hollande et puis Belgique. Espagne, Gabon, Irlande et Pays de l'Est, c'est-à-dire Pologne et Lituanie. Voilà en gros où nous sommes à peu près situés. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a des choses, il y a de très belles églises. En Angleterre, ils ont acquis de belles églises, parce qu'il faut dire que ce sont les Anglicans qui vendaient ces églises, des églises du 19e siècle. Bon, alors évidemment, c'est en style néo-gothique, donc c'est quand même un beau style. Alors ils ont vendu aussi, alors on a pu en acquérir de quelques-unes, qui sont vraiment formidables. Surtout c'était la Head Church, donc la haute église qui ont gardé plus de rites. Et vous avez surtout une église qu'on a à Bristol, tout un couvent qu'on a acheté à Bristol, ils font des retraites. Une église avec une chapelle derrière du Saint-Sacrement, tout en marbre, magnifique. Et puis une belle église aussi à Woking, pareil, c'est surprenant. On a tout un hôtel avec un baldaquin en marbre. Donc vraiment magnifique. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ça. Mais bon, c'est de belles choses. Puis il y a Bon, petite anecdote, je vais peut-être terminer là quand même. Une petite anecdote, c'est que en Hollande, notre prieur de Nuenen, on a l'église du village et le presbytère, l'ancien presbytère, comme prieuré. Et l'église officielle, elle est de l'autre côté de la rue et c'est une église moderne, style années 65, tout en béton. Alors, ce qui est très amusant, comment ça s'est passé, c'est qu'évidemment, grâce au concile, donc fallait se moderniser. Donc, le curé à l'époque avait décidé de construire une nouvelle église, bien plus moderne, quoi. Donc, ils ont construit des églises années 60, donc affreuses, donc tout en béton, un truc plat, enfin, sorte de piscine, si vous voulez. Donc, à côté. Et puis, l'église, alors, en procession de Noël, qu'est-ce qu'il m'a dit, près de 60. Je ne sais plus quelle année, 68 ou par là, enfin je ne sais plus. Alors les curés avaient dit aux fidèles, ben voilà, Noël maintenant, nous allons aller dans donc, la nouvelle église, donc dans cette ancienne église, ben, vous prenez tous quelque chose, un banc, un cierge, etc. Et puis nous allons en procession dans notre nouvelle église. Donc ils ont tous pris un banc, une chaise, un cierge, un crucifix, et puis ils ont traversé la rue et sont allés dans leur piscine. Et puis, dans cette église, bah, évidemment, elle est restée vide. Donc, elle a été pillée. Mais le problème, c'est que la municipalité, cette église était ancienne, donc du 15e ou 16e, je ne sais plus, donc, était une église, il y avait eu un saint qui était là, enfin, je crois, bon, bref, des vestiges très anciens. Puis la commune, bah, donc cette église, on a cassé des vitraux, on a commencé à saccager. Et bah, il faut la préserver, il faut protéger le patrimoine. Donc ils ont gardé l'église, puis l'ont mis en vente. Et puis, donc quelqu'un voyant ça, ils se dit, ah, non, on ne peut quand même pas laisser cette église. Donc un fidèle a acheté l'église. Il l'a acheté, je ne sais plus dans les quelles années, je ne sais plus les dates. Donc pour la maintenir. Donc le truc était bon pour un. Bon, c'est pas un franc là-bas, je ne sais plus ce que c'était comme monnaie. Bref. Et puis avec la charge de l'entretenir. Et puis ce personne, eh bien, un jour, entend parler de la fraternité. Et rencontre donc l'abbé, je crois, je ne sais pas si c'est Monseigneur, je crois que c'était l'abbé Schimmerger, et qui dit, bah, écoutez, bien sûr, au contraire, on vous l'achète sans problème. Et on a acheté cette église avec le presbytère. Donc, ce qui fait qu'on a évidemment tout restauré. Donc, on a fait avec la mairie un programme de restauration sur 10 ans. Et donc, quand vous arrivez dans ce petit village de Hollande, vraiment typique, village typique hollandais, eh bien, vous avez l'église, vous voyez la belle église, vous voyez le presbytère à côté. Eh bien, vous avez, tiens, je vais aller chercher, je vais aller voir le prêtre, ben, je vais aller là, quoi, je vais sonner. Et effectivement, ben, c'est nous, la Fraternité Sapidis. Donc les gens, ben, sont contents, en plus ils voient des prêtres en soutane, ils disent, ben, c'est normal, ça va dans le cadre, quoi, si vous voulez. Alors une fois ou l'autre, l'abbé qui est là-bas, il dit, bah oui, bon, alors il cherchait quand même le curé, mais vous êtes curé? Non, nous sommes Fraternité Sapidis, ça nous a pas. Ah bon, non, non, mais je voudrais voir le curé quand même du village. Ah bah ben, écoutez, vous traversez la rue, c'est l'église là-bas. Ah oh. Ils traversent la rue et ils vont voir l'église en face. Donc voilà une petite histoire. Alors il y en a plein dans la fraternité parce que bon, de par ma fonction, je commence à découvrir un petit peu. Mais vraiment, donc ça fait à peine un an que je suis là. Ce qui m'a vraiment plus frappé, c'est voir la providence. Parce que donc je vous dis, 168 maisons, on a des églises vraiment, mais partout dans le monde. J'ai dire ça, humainement, c'est pas explicable. Sincèrement, humainement, c'est pas explicable. Bon, juste le plus gros chantier qu'elle fait, ben là c'est en Suisse, à Ville, donc en Suisse alémanique, donc pareil, Nord-Est, si vous voulez, Saint-Gall, si vous voulez, le canton de Saint-Gall. On va inaugurer bientôt un complexe, je crois que c'est le plus gros chantier qu'on ait fait dans la fraternité. On a construit une église, une école pour les filles et un prieuré à côté, capable de recevoir des prêtres et une communauté de religieuses. Et puis une école pour recevoir à peu près. Je sais pas, 150 filles, quoi, et une bonne centaine en pension, quoi, quelque chose comme ça. Donc à côté, construit de rien. Il y avait des terrains. Donc vous imaginez le coût. Bon, c'est providentiel parce que c'est grâce à, disons, à un legs, une personne qui nous a légué des terrains. Et ces terrains étaient situés en pleine ville. Donc évidemment, le prix du terrain en Suisse, parce qu'ils n'ont pas de terrain, c'est tout petit la Suisse. Donc ça coûte des fortunes. Et avec ça, on a pu grâce à Dieu, construire tout ce complexe. Donc il va être inauguré à la rentrée là. Mais tout ça, c'est providentiel. C'est humainement, c'est inexplicable. Alors je crois que c'est là qu'il faut vraiment remercier le bon Dieu et se dire, oui, vraiment, la fraternité Saint-Pie X, c'est une œuvre d'Église. Alors bien sûr, je crois qu'on parlait de la passion, mais il faut parler, voir un peu de la passion de l'Église aussi. C'est évident qu'on préférerait que tout aille mieux avec la hiérarchie. Alors il faut prier effectivement pour que cette crise de l'Église se termine et qu'ensuite on puisse retrouver une Église florissante. Alors j'ai vraiment dépassé l'heure. Alors pour ne pas me faire trop gronder, on va quand même aller à la chapelle.